oreilles attentives pour recevoir sa parole. Réalisez que celui qui est au milieu de nous est celui qui est digne. Digne de régner sur le trône de nos vies. Il ne règne que là où il y a la sainteté. Il ne règne que là où il y a l'humilité et la crainte de son nom. Et ce matin, nous voulons qu'il nous aide non seulement à reconnaître son règne dans l'univers et partout dans les cieux, mais expérimenter également ce règne dans notre vie de tous les jours. C'est devant toi l'agneau qui a été immolé à la croix pour notre salut que nous nous tenons pour recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as préparé pour chacun de nous. Merci de nous avoir donné l'occasion de t'exprimer nos sentiments, de t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, de faire monter vers toi nos prières de louange et d'adoration. Ta parole déclare, ô Dieu, que dans ta présence, tout n'est que bonheur absolu, tout n'est que délice éternel. Et ce matin, Seigneur, tu nous as ouvert la porte de ton sanctuaire. Tu nous as invités, tu nous as accueillis par amour pour chacun de nous, et ce, malgré notre indignité. Et ce, Seigneur, malgré la manière dont nous avons marché à tes yeux tout au long de la semaine. Dans tes rapports avec nous, tu uses de patience, ne voulant qu'aucun périsse, que tous arrivent, Seigneur, au salut. Et connaissent et expérimentent, Seigneur, la félicité éternelle. Oh, merci pour ton amour qui reste, Seigneur, infaillible. Ton amour au nom duquel, une fois de plus, tu nous accueilles en cet instant, pour nous donner, Seigneur, cette parole des vies. Cette parole, ô Dieu, qui est appelée à construire ton caractère en nous. Cette parole qui est appelée à nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions, Seigneur, réaliser combien tu es merveilleux. Cette parole qui est appelée à nous doter des capacités et des aptitudes morales et spirituelles, qui seules peuvent nous garder en ta présence, et nous permettre ainsi de marcher avec toi, d'avancer, ô Dieu, à ton rythme, en ayant nos regards posés sur toi la source de notre salut, sur toi qui nous a libérés de toute forme de culpabilité. Seigneur, merci, parle-nous ce matin, dépose ta pensée, Seigneur, dans notre intelligence, afin qu'elle puisse la raviver, qu'elle puisse, Seigneur, lui donner cette capacité de discerner ta volonté. Dépose ta parole dans nos cœurs, cette parole de vie, cette parole de feu, et que par elle tu nous embrasses de ton amour, Seigneur. Par elle tu suscites la crainte de ton nom. Par elle tu nous amènes à une véritable attitude d'humilité, sans laquelle personne ne se tiendrait devant toi. Parle, comme tu as toujours parlé, Seigneur. Parle, car c'est de ta parole dont nous avons besoin. Parle, car ta parole est esprit et vie, qu'elle puisse secouer nos fausses convictions, qu'elle nous débarrasse d'une philosophie de vie, Seigneur, qui n'a aucune assise biblique, et qu'elle soit là comme une lumière, la véritable qui nous éclaire, qui brille sur nos faces, et qui nous délivre de tout obscurantisme spirituel, quel qu'il soit. Nous te demandons, Seigneur, de nous parler par ton esprit. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Jésus est venu pour manifester le règne de Dieu ici-bas. Tout au long de son ministère terrestre, il a dit, s'adressant à ses auditeurs, s'adressant à tous ceux qui venaient l'écouter, il leur a dit que le royaume et le règne de Dieu s'est approché d'eux. Amen. C'est une chose de savoir que le Seigneur est le roi de rois, que son trône est au-dessus de tout, Ça n'est une autre, mes amis, d'expérimenter son règne, qui est un règne de puissance, qui est un règne de gloire, qui reste et demeure le seul antidote aux différents problèmes auxquels le monde est confronté. Ce matin, je voudrais parler de deux forces jumelles qui sont censées nous maintenir dans le royaume de Dieu, qui sont censées nous aider à pouvoir marcher avec Dieu.
Alléluia.
Car on ne marche pas avec Dieu comme on marcherait avec n'importe qui. Il est saint.
Alléluia.
Il est juste. Dieu est très exigeant. Et si nous voulons marcher avec lui, il est donc important que nous comprenions quelles sont les forces qui agissent dans son royaume. Et pour cela, nous allons lire l'épître de l'apôtre Jacques au chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Ou même au verset 5, hein, si c'est possible. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous? Nous l'avons vu tout au long de la semaine, en nous appuyant sur la parole de Dieu, que tous ceux qui sont en Christ sont le temple, tous ceux qui sont en Christ sont la maison, le Saint-Esprit habite en nous, et le Seigneur, eh bien, tient à ce que son esprit ne soit pas attristé. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Mais il donne une grâce supérieure, puisque l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu a son royaume. Et c'est pour faire connaître à l'homme ce royaume, pour permettre à l'homme de quitter ce royaume de ténèbres dans lequel il se trouve, à cause évidemment du péché, de sa naissance dans le mal, de son asservissement au péché. C'est pour donc permettre à l'homme de pouvoir quitter ce royaume de ténèbres que Dieu est venu, dans la personne de Jésus, non seulement proclamer le royaume de Dieu, mais aussi rendre ce royaume accessible à tout homme.
Alléluia.
Gloire au Seigneur. Il est donc venu proclamer le royaume. Plus que proclamer le royaume, il est venu pour manifester la gloire du Seigneur. En d'autres mots, il est venu pour manifester son règne. Et à travers les évangiles, partout où il a manifesté le règne de Dieu, eh bien là nous voyons des problèmes qui jusque-là étaient insolubles aux hommes, trouvaient des solutions.
Alléluia.
Les aveugles ont vu, ils ont recouvré la vue, les malades, les paralytiques ont été guéris, les possédés et tous ceux qui étaient démonisés, eh bien, ont expérimenté la délivrance. Lorsque les gens se sont retrouvés, eh bien, avec un besoin physique, alors qu'il n'y avait que quelques pains, quelques poissons, il a fait le miracle de la multiplication. Bref, il a fait mille et une choses. Il a manifesté le règne. Le royaume de Dieu est une réalité. Et il est donc important de savoir quelles sont les forces qui gouvernent ce royaume et qui nous permettront de nous soumettre à ces forces pour permettre au Seigneur d'être avec nous, mais aussi et surtout pour nous permettre de marcher avec lui. Vous le savez tous, l'univers dans lequel nous nous trouvons, et en particulier cette terre sur laquelle nous nous trouvons, eh bien, est gouverné par différentes forces, notamment la gravité. C'est grâce à elle que nous sommes là, nous pouvons marcher, nous pouvons nous mouvoir, sur cette terre. Sans cette force-là, eh bien, nous flotterions tous, n'est-ce pas? Nous serions là à flotter dans l'espace. Mais grâce à cette force, eh bien, nous sommes sur la terre, nous pouvons marcher, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, parce que cette force nous maintient sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi des forces dans le royaume de Dieu qui sont censées nous faire progresser, qui sont censées nous maintenir dans la présence de Dieu et nous permettre, mes amis, d'avancer avec lui. Car Dieu n'est pas une force statique, Dieu est une personne dynamique. Alléluia. Dieu est en mouvement. Gloire à Dieu. Dieu est en mouvement, comme la terre est en mouvement, comme tout ce qu'il y a dans l'univers est en mouvement. Eh bien, celui qui soutient tout cela est aussi en mouvement. Et pour pouvoir être en mouvement avec lui, il est donc important que nous comprenions quelles sont ces forces auxquelles nous sommes censés nous soumettre pour pouvoir, eh bien, marcher avec lui et ne pas flotter tout en étant dans son royaume. Ce sont donc ces forces-là qui créent les conditions, des conditions idéales, non seulement en nous, mais aussi autour de nous, pour pouvoir être attiré par Dieu, comme je l'avais souligné, être attiré par Dieu comme l'aimant attire de la ferraille. L'aimant n'attirerait pas n'importe quoi. Vous pouvez mettre un morceau de pierre en face d'un aimant, il n'y a rien qui se passerait, n'est-ce pas? Mais dès que vous mettez de la limaille de fer, eh bien, hop, l'aimant attire. Voyez-vous? Donc, il y a des forces qui vont permettre à Dieu d'être attiré par nous et vice-versa. Et ces forces-là, nous allons les voir aujourd'hui, ce sont donc deux forces jumelles parce qu'elles marchent ensemble, parce qu'elles sont inséparables, parce qu'elles constituent un duo que nous retrouvons à travers toute la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ces forces jumelles sont, vous les connaissez, la première, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Encore la crainte de Dieu. Et toujours, c'est une force incroyable. C'est quelque chose, mes amis, qui va nous permettre de nous maintenir dans sa présence, qui va nous permettre d'avancer avec Dieu, d'interagir avec lui, etc. Et la deuxième force, c'est celle dont il est question dans ce passage, à savoir l'humilité. Gloire à Dieu. L'humilité. C'est de cette force qu'il va être question tout au long de notre prédication. Ces deux éléments, c'est-à-dire la crainte du Seigneur et l'humilité, sont deux éléments qui sont cruciaux et qui vont nous permettre, mes amis, de nous approcher de Dieu. Car ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que chacun de nous apprenne à l'approcher, non pas une fois, mais qu'il apprenne et qu'il découvre le bonheur, la joie, les délices qu'il y a à approcher la personne la plus merveilleuse dans tout l'univers, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous lance encore une fois de plus cette invitation. Encore une fois, nous entendons ce cri de Père, « Approchez-vous de moi !» Et je m'approcherai, mon frère et ma sœur, quel que soit le sentiment de culpabilité qui te ronge ce matin. L'ennemi est en train de tout faire pour te décourager. L'ennemi est en train de te dire que toi, tu ne vaux rien, que Dieu ne t'accepterait jamais. Ce matin, le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Crois qu'il t'aime et qu'il aimerait te pardonner. Alléluia. Ces deux éléments sont donc cruciaux. Et ce sont ces deux éléments qui vont nous permettre de rechercher davantage le contact avec le Seigneur et d'entrer en communion avec lui, de nous connecter sur notre Dieu et de nous laisser conduire par son Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la crainte de Dieu, l'humilité, ce sont deux vérités qui sont appelées à nous accompagner jusqu'au retour du Seigneur. Ce sont donc deux forces qui sont appelées, qui sont censées nous maintenir dans la présence de Dieu. Alors arrêtons de courir, ça et là. Alors arrêtons de vouloir chercher je ne sais quelle révélation, même extra-biblique. Alors arrêtons de rêver, cherchons simplement à vivre dans la crainte de Dieu. Ensuite, dans l'humilité, eh bien nous verrons que Dieu sera de plus en plus attiré par nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il sera attiré par nous parce que ces deux forces, eh bien, nous permettront de nous maintenir dans sa présence. Le prophète Ésaïe dit ceci au chapitre 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Alléluia. Sa demeure est éternelle. Tout passera, mais son royaume demeure éternellement. Tout passera. Tout trône humain, quelle que soit sa noblesse, est appelé un jour à passer. Mais seule la demeure du Seigneur demeure éternellement. Alors il ajoute, celui dont le nom est saint. Il répète, je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais aussi, écoutez bien la deuxième partie de ce passage, mais aussi, je demeure avec l'opprimé, avec celui qui est humilié, dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés. Alléluia. Dieu demeure dans les lieux élevés. Dieu est saint. Gloire à Dieu. Mais il ajoute qu'il demeure également dans un esprit humble ou humilié. Dont l'humilité attire Dieu, mes amis. Humiliez-vous, nous venons de lire. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous... L'apôtre Jacques nous le dit, si nous nous humilions, eh bien le résultat serait extraordinaire. Dieu finirait par nous élever. Et quand nous parlons d'élévation de la part de Dieu ou de l'élévation selon Dieu, eh bien croyez-moi, ça n'a rien à voir avec l'élévation selon les normes des hommes. Un homme peut paraître être élevé aux yeux des autres, mais être en abomination aux yeux de Dieu. La vraie élévation... C'est celle que nous recevons de la part de Dieu. Alléluia. Et l'élévation, la plus grande élévation, c'est celle que Dieu promet à tout esprit humilié, c'est-à-dire, c'est de le prendre dans son humilité et de l'amener là où il est. C'est donc dans la présence de Dieu, et seulement dans la présence de Dieu, que nous recevons la vraie élévation. Pas celle qui vient des hommes. Nous pouvons donner une autre opinion, envoyer une autre image aux gens. Vous savez, il y a des spécialistes en hypocrisie. Vous voyez? Il y a des gens qui peuvent vous donner l'impression que s'il y a 6 saints ou 10 saints sur cette terre, ils sont de ceux-là. Vous voyez? Quand ils marchent, quand ils parlent, quand ils se comportent, tout en eux dénote une certaine sainteté, voyez, pensant qu'ils sont grands aux yeux de Dieu. Non, l'élévation selon Dieu n'a rien à voir. Je peux vous assurer, il y a des pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui marchent dans l'humilité, qui n'ont pas l'occasion de passer sur une chaîne de télévision. Voyez-vous, que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, mais qui cependant sont grands aux yeux de Dieu. Ce sont des véritables eucalyptus à ses yeux. Alors que peut-être nous qui paraissons, nous ne sommes que des petits manguiers. Vous voyez, mes amis, l'élévation n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Nous devons rechercher l'élévation de la part de Dieu, élévation que nous ne pouvons connaître que lorsque nous sommes dans sa présence, que lorsque nous marchons avec lui. Il nous prend là où nous sommes humiliés pour nous amener là où il est, dans ses demeures éternelles. Gloire à Dieu. Où le Seigneur nous élèvera-t-il? Eh bien, Ésaïe nous le dit, dans le lieu haut et saint. Voilà la vraie élévation. Beaucoup d'hommes et de femmes ne comprennent pas ce que c'est l'humilité, ni sa puissance, dans la vie d'un homme ou d'une femme qui est en Christ. Nous avons tous des images, ou nous avons tous des idées par rapport à l'humilité. Et quand nous parlons d'humilité, eh bien, beaucoup de choses que nous avons apprises tout au long de notre vie, eh bien, traversent notre esprit. Donc chacun de nous a au moins une image, a au moins un modèle d'humilité. Et pour beaucoup de chrétiens, être humble équivaut à être faible. Être faible en tout. Avoir un caractère faible, voyez, ne pas parler très fort. Allez, bonjour, frère. Quand on prêche, Dieu vous aime. Dieu voudrait que nous avancions avec lui. Alléluia. Ouais. On pense que l'humilité, c'est être faible. Être mou. Il y a des gens mous. Mais ce n'est pas ça l'humilité. Hein. Il y a une certaine mollesse dans le péché ou dans le mal. Hein. Il y en a qui pensent qu'être humble, ce n'est pas avoir une colonne vertébrale. Voilà. Être comme ça, comme une sorte de mollusque. Il y en a même qui croient qu'être humble, ce n'est jamais parler de soi. Oh! Il ne faut jamais parler de soi, ça serait de l'orgueil. Il faut toujours parler des autres. Voyez? Non seulement n'est jamais parlé de soi, il y en a qui pensent qu'être humble, c'est avoir une opinion très basse de soi-même. Oh Seigneur, je ne suis qu'une petite chenille à tes yeux. Moi, ver de terre. Je ne suis qu'une sauterelle, Seigneur. Dans ton royaume, il y en a qui sont des véritables lions, qui font peur au diable. Dans ton royaume, il y en a, Seigneur, c'est comme des biches qui courent et tout ça, de manière majestueuse. Mais moi, je suis un ver de terre. Seigneur, je suis comme un petit morceau de bois sec. Ce n'est pas ça l'humilité. Hein. Oui. Ça conduit même, malheureusement, à développer une image très négativiste de soi-même. Voyez? Ça pourrait même tourner au narcissisme. Vous aimez, vous connaissez l'histoire de Narcisse, hein? D'où vient ce mot-là? Donc, c'est l'amour de soi exagéré. Narcisse était regardé dans un puits. En voyant son image, il s'aima tellement qu'il finit par tomber dans le puits. Vous vous aimez tellement, vous pensez que non, par rapport à l'amour que vous avez, c'est trop. Alors qu'en réalité, vous vous détruisez. Vous n'êtes pas une chenille, encore moins un ver de terre. Vous êtes une créature faite à l'image de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas en développant ce genre de choses que vous feriez preuve de l'humilité selon la parole de Dieu. Cette façon de concevoir l'humilité, cette idée qu'on a qui est fausse et erronée de l'humilité, mes amis, n'a rien à voir avec le concept de l'humilité tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu. Cette signification de l'humilité-là est même à des années-lumière du véritable sens biblique de l'humilité. Prenez le cas de Moïse. La Bible lui rend un témoignage extraordinaire en disant « Or Moïse était un homme très... » Vous pensez qu'il était mou? Hein? C'était un homme charismatique, oui ou non? C'était un homme qui parlait lorsqu'il fallait parler. Il exagérait même, hein? Vous voyez? C'était un homme qui a pleuré, mais c'était un homme aussi qui parlait et qui a parlé avec fermeté, qui a interpellé le peuple d'Israël. Voyez-vous? Et pourtant, la Bible nous dit, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Formidable. Lisez la vie de Moïse. Vous n'allez pas voir que c'était un homme mou, hein, qui s'effaçait. Ah, il faut que je disparaisse. Que Christ soit vu. Ça ne veut pas dire, alors dans ce cas, il faut carrément mourir. Paul, c'est la même chose. Quand on regarde à sa vie, j'y reviendrai un tout petit peu, on va voir que Paul a, dans sa marche, eh bien, a fait des progrès. Depuis le jour où il avait rencontré le Seigneur sur ce tour de Damas, jusqu'à la fin de sa vie, on peut voir qu'il y a eu une progression, qu'il a appris l'humilité au fur et à mesure qu'il avançait avec le Seigneur. Et qu'en est-il du Seigneur lui-même? Lui qui a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » C'est lui notre modèle absolu. Mais à un moment, il a utilisé la chicotte. Hein? Oui ou non? À un moment, il a renversé les tables. Il a dit aux gens, mais pourquoi vous transformez la maison de mon père, qui est une maison de prière, en un lieu où vous faites toutes sortes de commerces? Il y a eu, quelquefois, il a eu un langage très dur envers les hypocrites, notamment les pharisiens. Il n'a pas hésité à mettre le doigt où ça faisait mal. Et pourtant, il se présente comme étant celui qui est humble de cœur. En effet, il était. Donc, voyez, quand vous étudiez la vie du Seigneur, lui qui a déclaré qu'il était humble de cœur, vous verrez que l'humilité n'a rien à voir avec toutes ces fausses idées qui nous ont été communiquées, ou alors des fausses idées que nous avons développées nous-mêmes, de par notre milieu familial. Nous avions peut-être un père ou une mère qui n'osait jamais parler, et nous avons cru que c'était ça, alors que c'était de la timidité, que c'était ça, l'humilité. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire à propos de l'humilité? Nous avons tout intérêt à comprendre cela, mes amis, parce que c'est une des forces du royaume qui va nous permettre de nous maintenir dans sa présence, comme la loi de la gravité nous permet de rester sur cette terre. Et pour nous faire comprendre, pour que chacun de nous réalise ce qu'est l'humilité selon Dieu, eh bien nous allons épingler trois aspects que renferme cette réalité ou ce concept qu'est l'humilité. L'humilité possède donc trois aspects. Et ces trois aspects vont nous permettre de comprendre ce que la Bible entend par humilité. Ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il dit « Je suis humble de cœur ». Ce que Paul, ce que Jacques a dit, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu », plus tard Pierre le dira aussi, « et il vous, voulons-nous connaître l'élévation ?» Mes amis, n'essayons pas de flatter les gens pour qu'ils nous mettent sur un piédestal, ça serait pour notre destruction. Voulons-nous connaître l'élévation? Eh bien, la Bible est claire. Nous devons nous... Voilà. Vous pouvez connaître une certaine élévation de la part de gens. Vous pouvez manipuler les gens, vous transformer votre auditoire en une cour d'admirateurs. Voyez. Aussitôt que vous mettez à parler, les gens s'élèvent, ils mettent donner l'argent. Bah. Maintenant, si vous amenez un chèque de 100 000 dollars, je ne le refuserai pas. C'est pour rigoler. Vous pouvez vous constituer une cour d'admirateurs, voyez-vous, et leur dire ce dont ils ont besoin d'un, quelque chose qui leur ferait du bien à l'oreille, voyez, et ainsi les laisser dans le péché, parce qu'il ne faut jamais les déranger. Parce que ce sont eux qui tiennent le piédestal sur lequel vous êtes montés. Alors il faut les ménager, voyez-vous. Non, ça c'est une fausse... comment? C'est une élévation dangereuse. C'est de cette élévation dont le Seigneur a dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination au Seigneur. Nous sommes tous pareils. Tous pécheurs sauvés par grâce. Quel que soit notre ministère, nous ne devons jamais oublier que nous sommes aussi des brebis de la bergerie dont le Seigneur est le responsable. Alléluia. Nous nous occupons des âmes. Mais en même temps, le Seigneur s'occupe aussi de nous. C'est lui le divin berger. Quels sont les trois aspects? Premièrement, l'humilité, le premier aspect de l'humilité, c'est notre obéissance au Seigneur. Ça commence par là. Un humble, c'est celui qui mène une vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. En obéissant, je reviendrai là-dessus, à la parole de Dieu, nous reconnaissons qu'il a tout le droit sur nous. Si nous venons le dimanche, parce qu'il nous attend tous les dimanches à la borne, c'est que par notre décision et notre présence ici à la borne, eh bien nous sommes en train de reconnaître les droits de Dieu sur notre vie. Alléluia. Nous venons lui rendre un culte d'action de grâce. Nous venons l'adorer. Nous venons lui dire, Seigneur, merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine. Et merci aussi de commencer cette nouvelle semaine avec nous. Le premier aspect par rapport à l'humilité selon la parole de Dieu, eh bien, c'est l'obéissance. l'obéissance à Dieu. Un homme qui n'obéit pas au Seigneur, quand bien même il aurait toutes les attitudes dites d'humilité, il serait en abomination à ses yeux. La deuxième chose, non seulement l'obéissance à Dieu, mais il y a aussi notre dépendance absolue de lui. Alléluia. J'appuie tout, a dit Pierre, Paul, par celui qui... Nous dépendons en tout et pour tout du Seigneur. Même lorsque je sais que je peux faire quelque chose par moi-même, eh bien, je commence d'abord par me tourner vers lui. Pourquoi? Parce que même cette capacité à faire quoi que ce soit nous vient de lui. Alléluia. Donc, la dépendance absolue de Dieu est aussi une manifestation de l'humilité. Et enfin, le troisième aspect par rapport à l'humilité, c'est notre vision juste de nous-mêmes. Voilà. Une vision juste. Quelqu'un qui se voit toujours comme une sauterelle, qui se voit toujours comme un lézard, poursuivi je ne sais par quel chat de l'enfer, vous pensez que ce quelqu'un-là ferait preuve d'humilité? Pas du tout. C'est quelque part même de l'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que parmi tous ces gens-là, il n'y a que toi le seul lézard que le chat des ténèbres poursuive. Et les autres, non? Donc vous voyez, mes amis, l'humilité a un rapport aussi avec la vision, l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais alors, une image juste. Gloire à Dieu. Comme Esaïe l'avait expérimenté quand il est entré au temple. Quand il a vu le Seigneur assis sur ce trône élevé, il s'est écrié, « Malheur à moi, car je suis un homme et mes lèvres sont... » Il a reconnu, alors que c'était déjà un prédicateur de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, cet homme va développer une image correcte. Alors qu'avant, j'ai déjà eu à parler là-dessus, si vous lisez le chapitre avant le chapitre 6, vous verrez que c'était un homme qui avait un message percutant. Il jouait pas, lui. Il a dénoncé les soulards, il a dénoncé tous ces gens qui couraient après les biens matériels, tous ces gens qui méprisaient les autres. Il leur a dit, malheur à vous voleurs, malheur à vous adultères, à vous impudiques, malheur à vous qui courez après les liqueurs fortes, le loutoukou, tout ce que vous voulez, malheur à vous qui trouvez que ce que vous avez n'est pas suffisant, et qui allez prendre des biens qui appartiennent aux autres, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Six fois qu'il a dit malheur, hein, qu'il a proclamé malheur sur les autres. Mais lorsqu'il entre au temple, le septième malheur, c'est vis-à-vis de lui-même. Malheur à... Cette fois-ci, il ne voit plus les alcooliques de son quartier. Cette fois-ci, il ne voit plus les coulounes. Cette fois-ci, il ne voit plus les hommes politiques véreux, corrompus. Cette fois-ci, il ne voit pas tous ces gens, pécheurs, certes, mais cette fois-ci, il se voit d'abord lui-même. Dans le miroir céleste, il se voit comme Dieu le voyait. Il réalise à partir de ce moment qu'il n'était pas mieux que ses contemporains, que les gens auxquels il s'adressait. Et c'est là qu'il a dit, Seigneur, malheur à moi, j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu. Donc, notre obéissance à Dieu, notre dépendance absolue de Dieu et la vision juste de nous-mêmes, voilà, mes amis, les trois aspects de l'humilité. Et ces trois aspects, vous le trouverez dans la vie du Seigneur. Il a mené une vie de soumission à son Père, oui ou non? Il a marché dans l'obéissance au Père. Il a dépendu de lui. Avant d'aller prêcher, la Bible nous dit, tôt le matin, il allait où? Ah, il n'allait pas chercher une tasse de café quelque part. Tôt le matin, il se retirait pour avoir un moment de communion avec son Père, mes amis. Voyez-vous? Et quelquefois, il allait même passer la nuit au Mont des Oliviers, dans la prière. Et le lendemain, il descendait, il prêchait, il priait pour des gens. Et aussi, Jésus avait une vision juste de lui-même. Alléluia. Il savait qui il était. Glorifie ton Fils de la gloire qu'il jouissait auprès de toi avant que le monde ne soit. Commençons par notre obéissance rapidement. Mes amis, pas d'humilité vraie, en tout cas bibliquement parlant, sans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Tout commence par là. Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Tous les dimanches, nous entendons les messages de la part du Seigneur. En semaine, c'est la même chose. Dans nos cellules, c'est la même chose. Nous venons d'avoir une semaine très riche. Ici à l'église, où nous n'avons parlé que du Saint-Esprit. Nous avons reçu mille et une choses en rapport avec le Saint-Esprit. Maintenant, ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions mettre tout cela en pratique. Car le but de Dieu, ce n'est pas simplement de nous donner un savoir, de nous communiquer une certaine connaissance théorique. Voyez-vous, que nous soyons là simplement accumulés, mais que nous passions, eh bien, à la pratique, à une vie d'obéissance. Après avoir mentionné l'humilité, dans le passage que nous avons lu, nous trouvons cet ordre. Soumettez-vous à Dieu. C'est un impératif, mes amis. Dieu attend que nous nous soumettions à lui. Et la soumission, c'est quoi? C'est cette disposition à obéir. Voyez? Être soumis aux autorités, quelles qu'elles soient, c'est vivre dans cette disposition, eh bien, d'obéir aux injonctions de son chef ou des autorités. Voyez? Donc, un militaire, un bon militaire, reste toujours soumis à ses chefs. Dès lors que l'insoumission, entre dans son cœur, il devient rebelle. Et une armée qui serait constituée de rebelles, ce serait d'être une armée. Parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir debout. Donc, obéir à Dieu, c'est quoi? C'est laisser Dieu nous conduire. Et c'est le premier aspect de l'humilité. Laisser Dieu nous conduire veut dire que, Seigneur, je reconnais qu'avec ma sagesse, je suis incapable de faire de choix qui m'amène véritablement à demeurer sur la voie que tu as tracée pour moi. Laissez Dieu conduire en obéissant à sa parole et reviens à dire, Seigneur, je reconnais que la vie qui m'anime, c'est de toi que je la tiens. Je reconnais que, Seigneur, je ne m'appartiens plus, comme la Bible dit, et que j'appartiens à toi et à toi seul. Puisque je t'appartiens, puisque je suis, comme nous l'avons vu le dimanche dernier, ta propriété, puisque je suis, Seigneur, ta possession, je n'ai pas d'autre choix que de vivre comme toi tu le veux, que de me laisser conduire par toi. Et Dieu nous conduit toutes les fois que nous obéissons à sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est prendre le chemin qu'il a tracé pour nous, même lorsque ce chemin nous paraît difficile. Voyez-vous? Oui? Quelquefois, le Seigneur nous demande. Il nous donne des instructions, des directives, qui sont à l'opposé de notre compréhension, à l'opposé de notre vision en nous, à l'opposé de ce que nous imaginions être le bon chemin pour nous. Voyez, regardez ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, écoute, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va vers un pays que je te montrerai. Voilà. C'était Abraham, soit d'accueillir cette parole, de se dire, le Seigneur sait ce qu'il fait. De toute façon, celui qui a tout le droit sur moi, je vais partir, même sans savoir où je vais aller. Mais puisqu'il m'a dit, va, je vais obéir jusqu'à ce qu'il me conduise là où il m'attend. Ou alors il aurait pu dire, écoutez, Seigneur, je veux bien, mais tu me dis simplement quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta famille et puis pars. Il aurait pu résister. Mais Abraham n'a pas résisté, il a obéi. L'obéissance, mes amis, est une manifestation de notre dépendance de Dieu, de notre soumission à Dieu et par conséquent, l'obéissance est une des caractéristiques de l'humilité. Gloire à Dieu. Nous devons obéir aux instructions du Seigneur, même lorsque cela nous met en porte-à-faux avec nos propres convictions, avec notre compréhension de ce qui est bien pour nous ou de ce qui serait bien pour nous. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est déjà, mes amis, faire preuve d'humilité. Alors quelqu'un qui marche dans la désobéissance de manière constante, quand bien même il dirait « Seigneur, je ne suis qu'une chenille, un ver de terre ou un ver à soie », quand bien même il dirait « Oh Seigneur, je ne vaux rien », eh bien ça ne serait pas de l'humilité. L'humilité passe par l'obéissance à sa parole. Et l'obéissance à la parole nous amène à nous soumettre à lui. Et en nous soumettant à lui, eh bien, par notre soumission, nous reconnaissons en Dieu notre propriétaire, celui duquel nous tenons tout ce que nous avons. Alléluia. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, rapidement, notre dépendance complète, totale et entière de Dieu. Dépendre de Dieu en tout. Voilà, mes amis, ce qui va nous amener à être véritablement humbles. Paul pouvait écrire, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir, capables d'imaginer, capables de faire quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, notre aptitude, mes amis, notre aptitude nous vient de... Il reconnaît. Et pourtant, mes amis, c'était un homme qui était à l'aise, par exemple, avec certaines écoles de philosophie grecque. Aller à l'aéroport, je trouvais Paul en train de discuter avec les épicuriens, les stoïciens. Il était à l'aise. Voyez-vous? Il avait vécu dans une ville en Cilicie, à Tarse, eh bien, qui était aussi une ville connue pour la présence de certains grands philosophes grecs, dont il était très à l'aise. Mais cependant, il reconnaît qu'au-delà de tout ce qu'il avait comme connaissance, au-delà du fait que c'était un pharisien qui connaissait très bien la loi, au-delà du zèle qu'il avait pour Dieu, tout ce qu'il a fait, au-delà d'être peut-être un bon orateur, il reconnaît que tout cela, toute cette capacité-là, eh bien, lui venait de la part du Seigneur. Alléluia. Paul a eu à grandir dans sa marche avec le Seigneur. Il y a eu une progression dans la vie de Paul. Plus il prenait de l'âge, plus il avançait, et plus il était dépendant de Dieu et de sa grâce, et moins il dépendait de ses propres forces, de ses propres talents ou autres. Plus tard, il dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Quelle humilité! Alors que nous battons, hein? Nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse comme apôtres. J'ai parlé avec un, je ne sais pas si je vous l'avais dit, un jeune pasteur, je demandais après son père, j'ai dit, le pasteur, ah oui, l'apôtre. Alors moi j'insiste, oui le pasteur, ah oui, l'apôtre. Il tenait absolument que je l'appelle apôtre. Vous voyez? Paul dit non, je ne suis même pas digne d'être reconnu apôtre à cause de tout ce que j'ai fait. Pour avoir été un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Mais il m'a manifesté sa grâce. Alléluia. Et sa grâce en moi a fait tout ce que j'ai fait. Il reconnaissait que tout ce qu'il avait fait, les miracles, les différentes visions qu'il avait reçues, les différentes expériences, jusqu'à être transporté au troisième ciel, tout cela n'était qu'une grâce que le Seigneur lui avait faite, et non pas des Oscars qu'il aurait reçu de sa part, voyez, pour le récompenser de sa haute spiritualité, pour le récompenser de tous les sacrifices qu'il avait consentis pour le Seigneur. Oui. Et enfin rapidement, la perception de nous-mêmes. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Si elle n'est pas correcte, alors ce n'est pas de l'humilité. Croire que, bon, Seigneur, tu vois, je ne suis pas éduqué. Enfin, je n'ai pas été bien éduqué. Seigneur, tu vois, je n'ai pas de diplôme. Seigneur, tu vois, je viens d'une famille très pauvre. Ce n'est pas la pauvreté qui fait l'humilité. Il y a des orgueilleux tout en étant pauvres. Hein. Il y a une forme, ben oui, de pauvreté qui est vraiment l'orgueil. On veut montrer qu'on est pauvre, le plus grand pauvre qui soit. C'est déjà de l'orgueil. Parce qu'il y en a qui sont encore plus pauvres que toi. Oui. Donc, la vision de soi-même, une image vraie de nous-mêmes. Il s'agit ici de l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Paul n'avait pas une autre opinion de lui, voyez-vous. Il a tout fait pour que les gens ne puissent pas développer une autre image de lui que l'image que lui-même avait de sa propre vie. Il a dit que c'est une chose certainement sûre, que Jésus est venu sauver le pécheur dont il était le premier. Vous vous rendez compte? Alors que nous aurions profité de l'occasion pour mettre en évidence, mettre en exergue nos talents d'orateur, notre onction, fraîche onction. Voyez-vous? Mais lui, non. Lui ne dit pas ça. Mes amis, la crainte de Dieu et l'humilité sont quasi inséparables. Car la crainte de Dieu, lorsqu'elle est quelque part, eh bien, ça montre que la personne est humble, oui ou non. Elle reconnaît que, ben, écoutez, c'est lui le maître, moi je suis l'esclave. C'est lui le Seigneur, moi je suis son sujet. Alors je vis dans la crainte, et la crainte de Dieu, n'est-ce pas l'obéissance à sa parole? Alléluia. Donc, c'est un duo, comme je l'ai souligné au début, que nous retrouvons sans cesse à travers toute la Bible. La crainte de Dieu et puis l'humilité. Alors que le royaume de Dieu possède ces deux forces jumelles, nous devons savoir que le royaume des ténèbres en a aussi. Il y a deux forces jumelles dans le monde des ténèbres. Quelles sont ces forces-là? Et qui sont à l'opposé des deux forces jumelles dont il est question aujourd'hui? Eh bien, à l'opposé de la crainte du Seigneur et de l'humilité, force jumelle du royaume de Dieu, nous trouvons l'orgueil et la rébellion. Voilà les deux forces qui maintiennent les gens dans le royaume des ténèbres. L'orgueil, être un but de soi-même, avoir un ego plus que surdimensionné, croire qu'on est au centre de la terre. Voyez-vous? Il y en a même qui pensent que le jour qu'il quitterait cette terre, la terre s'arrêterait. Non. L'orgueil, la rébellion, eh bien, ce sont deux forces jumelles qui aussi maintiennent les gens dans la présence du diable. La hauteur, l'arrogance, croire qu'on connaît tout, qu'on est au-dessus de tout. C'est même la caractéristique des nations. C'est pourquoi le Seigneur les détruira. Les chefs de ce monde, il y en a qui sont présentés comme les grands. Le président des États-Unis, il est présenté comme l'homme le plus puissant, alors que c'est un pécheur, comme vous et moi. Certes, il est à la tête d'une grande nation. C'est d'ailleurs une grande responsabilité. Vous voyez? Être à la tête d'une nation comme celle-là, ça veut dire que vous avez le sort de beaucoup de peuples dans la main. C'est-à-dire, chaque décision doit être bien pensée et réfléchie. Autrement, celui à qui appartient ce peuple-là vous demandera de compte. Ça veut dire aussi que puisque tu as été assis sur ce trône-là, le jour que tu dois te repentir, tu devras utiliser les mêmes médias. Dieu ne va pas accepter que tu t'enfermes dans la cuisine après que tu aies quitté la maison blanche en disant, « Ah Seigneur, ah, j'avais mal fait, non ?» Retourne. Fais une conférence de presse. Reconnais ton mal. C'est ça la repentance, non? Autrement, c'est facile. Tu t'enfermes seul dans la toilette avec ton gant. Tu te laves et puis tu te regardes dans le miroir. Ah, j'ai quand même mal agi, là. Ouais. Bref. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Nous avons tout intérêt à être humbles, c'est-à-dire à marcher dans l'obéissance, c'est-à-dire à dépendre absolument de Dieu, c'est-à-dire développer une image qui soit correcte de nous. Gloire au Seigneur. Dieu est attiré par ceux qui le craignent et par la véritable humilité. Voulons-nous attirer Dieu, l'amener à nos côtés pour qu'il soit avec nous? Il n'y a pas de recette magique. Vous pouvez jeûner 40 jours, mais si vous le faites dans le désordre, ça peut même paraître comme étant de l'orgueil religieux. Jésus a jeûné combien? 40 jours. Je vais faire 40 jours. Et quand tu l'as fait maintenant, il faut que tout le monde le sache. Dès que vous prenez la parole, Je me souviens, les 40 jours là, ah là là, c'était très dur. Ça devient maintenant, tu pousses la chansonnette tout le temps avec tes 40 jours de jeûne et de prière. Voyez? Oui, la véritable humilité doit déboucher sur un engagement total vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire comme corps, âme et esprit. Et cet engagement total et entier envers le Seigneur passe par une vie de soumission totale à Dieu. Et ceci, c'est l'humilité. Paul dit dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir au corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc la parole de Dieu nous appelle à offrir nos corps pour le service, et ce, dans un engagement total. Dieu veut tout. Il ne veut pas un engagement superficiel. Je vais terminer par, puisque vous aimez des histoires, on raconte l'histoire d'une poule qui était très amie, très copain, avec un cochon. Ce qui est rare, hein? Eh bien, ces deux copains, la poule et le cochon, habitaient tous dans une même exploitation agricole. Et ils étaient copains, ils se partageaient des histoires, ils se partageaient des fardeaux. La poule pouvait raconter le nombre d'œufs qu'elle venait de pondre, etc. Et puis le cochon, ben, comment il trouvait du plaisir à se vautrer dans le bourbier. Enfin, vous voyez l'histoire d'ici. Et puis un jour, ces deux amis, ces deux copains se mirent à s'entretenir à propos des difficultés que rencontrait une famille qui vivait dans le voisinage. La poule qui dit, mais tu as remarqué cette famille, c'est vraiment triste. Cette famille a beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas de moyens, ils vivent de manière indigne, et le cochon d'appuyer cela dit, mais tu as tout à fait raison. Alors, oui, ils ont des besoins, etc., dit la poule. Et le cochon qui dit, mais c'est vrai, ils ont des besoins, mais il faudrait alors les aider. Alors le cochon dit, est-ce que tu as une idée quant à la manière dont nous allons aider cette famille qui est dans le besoin? La poule dit, oui, eh bien je donnerai volontiers quelques-uns de mes œufs à cette famille pour qu'elle ait au moins quelque chose à manger, et toi, tu pourrais donner du jambon. Comme ça, ils auraient et les œufs et... Sur ce, le cochon regarde la poule. Il arrête net. Qu'est-ce que tu dis? Halte là! Je t'interdis de dire cela. Quoi? Donner du jambon? Eh bien, pour toi, donner des œufs, il s'agit d'une simple contribution. Mais pour moi, c'est un engagement pour la vie. Parce que pour faire du jambon, il faut faire quoi? Alors, mon frère et ma sœur, cochon ou poule, ce que Dieu attend de nous, c'est un engagement total. Que nous mourions nous-mêmes, c'est alors que notre vie sera véritablement une bénédiction pour les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Un engagement total. Et cet engagement est le résultat d'une vie humble, c'est-à-dire qui se fonde, qui se base sur l'obéissance à la parole de Dieu, sur la dépendance absolue de Dieu, et enfin sur le développement d'une image qui soit vraie de nous-mêmes. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons nous mouvoir dans le royaume de Dieu, non pas être des chrétiens qui flotteraient dans le royaume de Dieu. Être dans un état de flottement, eh bien, nous empêcherait de jouir pleinement des bénédictions de Dieu. Il faut que nous soyons soumis aux deux forces pour pouvoir demeurer avec Dieu et marcher avec lui. Et pour cela, il faut l'humilité. Pour cela, il faut la crainte du Seigneur. Mon frère et ma sœur, Dieu résiste aux orgueilleux, Mais la Bible d'ajouter, il fait grâce aux humbles. Il élève les humbles, ceux qui s'humilient. Alors, prends la décision de mener une vie marquée par l'humilité, une vie qui passe par l'obéissance à sa parole, une vie de dépendance absolue de lui, une vie qui te permet de développer une image vraie de toi, que tout ce que tu es n'est que le produit de sa grâce, que tu n'as rien amené au monde, rien apporté au monde. Et le jour où tu devras partir, tu devras tout laisser. Alors tout ce que tu as et tout ce que tu es n'est que le produit de sa grâce envers toi. Prie le Seigneur et demande-lui de t'aider à être véritablement humble, car c'est seulement de cette manière que vous pourriez rester demeuré dans la présence de Dieu. Prions tous ensemble. Nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, combien nous aimerions grandir dans ta présence. Combien nous aimerions marcher avec toi, Seigneur, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Combien, Seigneur, nous aimerions demeurer dans ta présence et nous laisser conduire par ton esprit. Et pour cela, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes humbles, des hommes et des femmes qui marchent et demeurent dans la crainte de ton nom. C'est seulement de cette manière, ô Dieu, que nous mènerons une vie d'engagement total et entier vis-à-vis de toi. Que nous soyons prêts, notre vie, pour ta gloire. Ô Dieu, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci, notre Dieu. Et nous te bénissons également pour l'occasion de pouvoir, Seigneur, ô Dieu, récolter ces offrandes et tes dîmes. Pose ta main et bénis, Seigneur, tout cela afin que cela serve à la louange et à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur.